Lier Zola à la carte postale peut à première vue paraître incongru. Le cas n'a pas été prévu par les organisateurs de ce colloque. On ne trouve aucune mention de la carte postale parmi les moyens de représentation retenus dans les thèmes de réflexion proposés aux participants. Et, détail révélateur, lorsque je propose le titre « Zola et la carte postale », je le vois au fil de ma correspondance subir une transformation minime, mais à mon sens tout à fait significative. Le « et » devient un « en », ce qui donne « Zola en carte postale ». Autrement dit, le rapport que je veux flou entre Zola et la carte postale est insensiblement ramené par cette tournure élégante à un thème de réflexion qui, lui, figure en bonne place dans la grille du colloque, la représentation de Zola dans l'iconographie contemporaine. À côté de la représentation de Zola dans la peinture, dans la photo et dans la caricature, viendrait se ranger sa représentation en carte postale. En effet, il y aurait là, comme on dit, un beau sujet à traiter. Car qu'il s'agisse des portraits idéalisants de Zola en tant que grand écrivain ou des caricatures avilissantes de Zola en tant que défenseur de Dreyfus, les cartes postales représentant Zola constituent une banque d'images essentielle à répertorier et à examiner. D'une part, il y aurait les portraits de Zola à inscrire dans la série des personnages célèbres, écrivains, hommes politiques, acteurs et actrices. D'autre part, ceux à ranger sous la rubrique « événements historiques », sous-catégorie « justice », sous-sous-catégorie « affaire Dreyfus ». La deuxième serait de loin la plus fournie et la plus riche en matière à réflexion, car comme le note Guionnet, l'auteur de la première histoire moderne de la carte postale illustrée en France, l'affaire Dreyfus est peut-être l'événement ayant inspiré le plus de cartes postales illustrées en France. Et non seulement en France, comme on nous le rappelait déjà hier, car une part importante des cartes postales ayant trait à l'affaire émane d'Allemagne ainsi que d'autres pays européens. Et dans cette masse de cartes, la place de Zola, on s'en doute, n'est pas la moindre. Voici donc quelques échantillons de ces représentations de Zola en carte postale. Tout d'abord, deux portraits appartenant à ce que j'appelle le pôle idéalisant de la représentation de Zola en carte postale. Le premier se présente comme le modèle en format réduit du portrait officiel de ce personnage mythique, le grand écrivain. Toutes les marques de la grandeur y sont réunies. La signature prestigieuse du photographe, Nadar, qu'on voit dans le coin là, qui redouble le nom illustre de l'écrivain, la légende qui rappelle les principaux titres de gloire de l'auteur mort, la richesse des tons noirs rehaussée par la facture brillante de l'impression. Le deuxième portrait, une lithographie signée Orens, se situe en fait à la limite des cartes portraits idéalisantes et des cartes charges. Car Orens, ou Denisard Orens de son plein nom, est un des principaux auteurs de cartes illustrées de l'époque et notamment de l'affaire Dreyfus. Ainsi, il est l'auteur d'une carte contemporaine de celle-ci, intitulée « Papa Vérité », qui représente le même Zola, je n'ai pas de diapo, qui représente le même Zola, mais le poitrail étriqué, dénudé, juché sur un âne et tenant à la main un petit masque grimaçant aux traits de Dreyfus. La légende de cette carte charge, qui serait la dernière parue du vivant de l'écrivain, et la vérité en marche, etc. Ici, toutefois, aucune intention satirique ne transparaît, au contraire. Sur ce portrait, conçu expressément pour figurer en carte postale, la grandeur de Zola se passe de toute légende explicative. Elle se donne à lire à même les traits burinés par la main de l'artiste. Voyons maintenant, et à titre d'échantillon, deux autres cartes tirées, elles, de la vaste cartographie produite par l'affaire. La première, éditée à Francfort, se présente non seulement comme une énigme, un rébus, mais surtout comme une sorte de parodie de la catégorie la plus répandue des cartes postales allemandes qui inonde le marché français de l'époque, celle dite des Grußhaus. Ce qui me semble surtout significatif ici, c'est qu'à la limite, la figure de Zola disparaît. En fait, la figure de Zola, elle est... Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Alors, la figure de Zola disparaît, se dissout dans le paysage. Poussée jusqu'à l'extrême, au-delà des images spectaculaires du Zola Christ, du Zola Vidangeur et tant d'autres produites par l'affaire, on trouve un Zola dont le seul nom, dont la seule mémoire ameute les foules. Il y a là comme une sorte de fuite de la représentation, où ce qui est donné à voir, c'est l'absence de la figure honnie, les effets produits par un exilé, voire bientôt un mort encombrant. Ainsi, une des séries les plus cotées de cette iconographie est celle qui montre les manifestations dans les rues de Paris lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, événement dont cette autre carte nous permet de mesurer le scandale. La mise au point, c'est pas très clair. Bon, mais comme je l'ai annoncé au départ, mon propos se situe ailleurs, dans une zone moins balisée, plus hasardeuse. En accouplant Zola à la carte postale, il ne s'agit pas pour moi de parler de la carte postale en tant qu'illustration, un moyen parmi d'autres de représenter Zola, son œuvre et ses activités politiques. Ce qui m'intéresse, et cela dans le cadre d'une étude plus vaste que j'entreprends sur la carte postale et la représentation, ce sont les rapports entre Zola photographe et la carte postale illustrée en tant que nouveaux médias dont l'essor et le rayonnement pendant toute la période dite dorée de son histoire, soit en comptant large de 1900 à 1925, en font un des éléments clés de la montée de la culture de l'image et de la société de consommation, à placer au même rang que d'autres moyens de reproduction mécanique plus nobles, tels la photographie ou le cinéma. Prisés par les chineurs, les ethnographes, les historiens des localités, de la vie quotidienne et de la vie populaire, la carte postale illustrée, cette parente pauvre de l'iconographie, est jusqu'à nouvel ordre un champ relativement négligé par les théoriciens de l'image, peut-être en raison précisément de ce qui en constitue, tout du moins en partie, la spécificité. Ses petites dimensions, son coût modeste, son omniprésence dans la vie quotidienne, son statut de secondarité par rapport à d'autres techniques de représentation telles que la photographie, mais aussi les arts graphiques. Et pourtant, la carte postale, qui a son histoire propre, ses canons esthétiques distinctifs, pour ne pas dire ses poncifs, ses catégories génériques particulières, constitue un objet théorique à part. Il n'est bien sûr pas question, dans le cadre de cette communication, d'entreprendre le travail de réflexion qui reste à faire dans ce domaine. Je me bornerai donc à rappeler quelques faits qui permettront de mieux situer le rapport que je cherche à établir entre Zola photographe et la carte postale. Après des débuts quelque peu contestés, mais qui semblent coïncider avec la guerre de 1870, la carte postale est officiellement adoptée en France comme moyen de correspondance, bien après les autres pays européens, le 13 janvier 1873, à la suite d'un vote de l'Assemblée nationale. Toutefois, ce n'est qu'à partir de l'exposition universelle de 1900, et nous y reviendrons, que l'âge d'or de la carte postale illustrée commence en France, et que d'un moyen essentiellement publicitaire, si ce n'est de propagande, la carte postale accède à la vocation qui est toujours la sienne aujourd'hui, fournir un moyen de communication bon marché et rapide pour des populations de plus en plus mobiles, lettrées et aisées. L'histoire de la carte postale est inséparable de la modernisation. Son essor est solidaire du développement des moyens modernes de transport et de reproduction mécanique, du tourisme de masse et aussi, bien sûr, du colonialisme. Dès 1900, donc, l'industrie de la carte postale prend une ampleur considérable. Pour ne citer qu'une statistique, la Chambre syndicale française de la carte postale illustrée estime que pour l'année 1905, 600 millions de cartes ont été émises. Les statistiques varient d'un livre à l'autre, mais ça tourne dans ces zones-là. Comme le remarque un contemporain, la carte postale jouit actuellement d'une vogue incontestable. On la rencontre à l'étalage des magasins luxueux des grandes villes, aussi bien qu'à la devanture des boutiques de la plus humble bourgade. La cartophilie se répand dans toutes les classes. Pas de foyer qui n'ait son album de cartes postales, car la carte postale a et conserve un devenir collection. Ainsi viennent se ranger pêle-mêle dans les pages de l'album familial toutes les cartes qu'on reçoit. Et la variété des cartes est très grande. La carte postale illustrée comprend un nombre étourdissant de sous-genres, allant des cartes grivoises, softcore, très prisées des touristes qui débarquent à Paris pour goûter à sa vie nocturne, à des cartes de vœux mièvres, bonnes à mettre entre toutes les mains et dans tous les albums. Or, dans ce chaos de catégories dignes d'une nouvelle de Borges, il y en a une qui m'intéresse tout particulièrement. C'est celle des cartes vues. Catégorie combien méprisée par Paul Éluard, qui lui préfère les cartes fantaisie plus affriolantes. Et il écrit dans le Minotaure, « Les cartes vues sont toutes pareilles. Elles tendent à unifier tous les souvenirs, à immortaliser toutes les villes, tous les villages, à composer une patrie de toutes les petites patries, une église de toutes les églises obscures qui attristent la moindre agglomération. » Mais Paris, s'il est vrai qu'il se dégage des cartes vues de milliers de localités françaises et américaines aussi, un sentiment d'ennui, de déjà-vu, il n'en est pas tout à fait de même pour les cartes vues parisiennes, car celles-ci nous permettent d'étudier de près et à partir d'une importante banque d'images, de l'ordre de quelques milliers de cartes, l'élaboration de ce qu'on pourrait appeler le discours de la métropole, de voir comment, à l'orée du XXe siècle, la capitale se dote d'une iconographie abondante, systématique et bon marché, proposant à ses citoyens et propageant de par le monde une représentation d'elle-même qui sert à légitimer, sur le mode euphorique, ses ambitions nationalistes et impérialistes. Avant d'en venir au rapport de Zola et de la carte postale, une dernière série de remarques s'impose. Quel que soit le biais par lequel on aborde l'histoire de la représentation au XIXe siècle en France, un fait semble désormais acquis. Le XIXe siècle, et surtout la France du Second Empire, est l'ère non pas tant de l'image, pour cela il faudra attendre le XXe siècle, que de ce que Philippe Hamon a nommé l'exposition, et je cite Hamon, une obsession panoptique et démocratique de transparence, d'étalage, d'ouverture, de mise en lumière et en circulation s'instaure. Il s'agit de mettre tous les moyens en œuvre pour effectuer un relevé exhaustif de l'ensemble de la réalité sociale, une réalité conçue comme étant, toujours selon Hamon, entièrement maîtrisable par des bilans, par des rayons, par des cloisons, par un étiquetage. En effet, ce quadrillage, cette prise de possession systématique du réel par le regard, ne peut s'opérer qu'au moyen d'un découpage qui déchire le tissu du réel et qui, nous le savons, est loin d'être innocent au plan idéologique, car elle exprime et conforte une vision bourgeoise du monde comme étant composée de fragments autonomes que seul le point de vue surplombant de l'homme bourgeois permet de ressouder à sa guise. La photographie, dont la carte vue topographique est étroitement tributaire, sera pour la bourgeoisie du capitalisme impérial, ainsi que de la Belle Époque, un moyen particulièrement efficace de proclamer son triomphe, d'asseoir son pouvoir, de faire régner sa vision du monde sur toutes les classes, voire sur toutes les nations. C'est donc dans ce contexte que vont se situer les démarches convergentes de Zola et des éditeurs de cartes postales. En effet, dans le boom des cartes postales au début du siècle, comme le dit un commentateur, Paris va se tailler la part du lion. Se situant dans le droit fil d'une longue tradition de segmentation et de classification de la matière métropolitaine, les séries de cartes vues procèdent à un quadrillage d'une finesse jusqu'alors inconnue. À chaque monument, à chaque cadrage d'une rue ou d'un boulevard correspond un chiffre, une case vide de la série de l'éditeur. Et certaines de ces séries parisiennes s'élèvent jusqu'à 3000 vues. Pas d'arrondissement qui ne soit inventorié, pas de monument qui ne soit représenté jusque dans ses moindres détails, pas de site historique qui ne soit balayé sous tous les angles. Mais à y regarder de plus près, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'en dépit du souci d'exhaustivité, de saturation affiché par ces éditeurs, leur découpage de Paris comporte des lacunes. Qu'alors que certains monuments et quartiers sont surreprésentés, d'autres n'ont pas droit à la représentation. Dans la série LL, Louis Lévy, qui comporte quelques 2000 cartes d'une qualité esthétique exceptionnelle, et dont le découpage me paraît particulièrement représentatif de ce discours de la métropole que je cherche à dégager, une préférence très nette est accordée, d'après ce que j'ai pu en reconstituer, et je suis loin d'avoir reconstitué la série, c'est le dada des collectionneurs, à la représentation, une préférence très nette est accordée à la représentation des beaux quartiers, aux aspects les plus valorisants, les plus glorifiants de la ville-lumière. Ainsi, de façon tout à fait significative, sa série témoigne du déplacement du centre du kilomètre zéro de Paris, de Notre-Dame à l'Arc de Triomphe. La carte 1, ainsi que la dizaine qui suit, ça c'est le oui, le c'est donc la première carte dans la série Louis Lévy, LL, donc vous voyez les initiales, représente l'Arc de Triomphe et ses avenues attenantes. Il existe bien sûr d'autres séries, y compris éditées par LL, qui prennent, elles, pour thème les aspects plus pittoresques, voire populaires, de la vie quotidienne parisienne de la Belle Époque, telle la célèbre série de 80 cartes sur les petits métiers parisiens photographiés par Adjé. Mais dans l'ensemble, et les choses n'ont pas beaucoup changé depuis, rares même aujourd'hui sont les cartes vues de la goutte d'or dans les kiosques parisiens, les éditeurs des premières cartes de Paris font la part belle aux beaux quartiers, ceux de l'Ouest, mis en valeur par les travaux de Haussmann. Or, comme le fait très justement remarquer le commentateur de l'album de photos prises par Zola, ces prises de vue de Paris témoignent d'une même restriction de champ, d'un même parti pris au niveau du référent. Juste un fragment de cette citation. Le photographe flâne longuement dans les allées des Tuileries et du Luxembourg, dans le parc Monceau, au but de Chaumont ou au bois de Boulogne. Et s'il s'attarde place Clichy, c'est sans doute qu'il habite tout à côté. Encore ne saurait-on reprocher à cet amateur éclairé ce manque d'intérêt pour le Paris populaire, dans la mesure où son œuvre est déjà écrite et qu'il a dit précisément ce qu'il avait à dire. Tout se passe en effet comme si c'était l'auteur de la Curée plutôt que de l'Assommoir qui maniait l'appareil de photo. Mais comme nous le rappelle très justement Henri Mitran dans la première partie des carnets d'enquête intitulée précisément « Les beaux quartiers », le cycle des Rougon-Macquart n'est pas tourné immédiatement vers la représentation de la vie populaire. L'Assommoir n'est que le 7e roman de la série, Germinal le 13e. Il ne s'agit bien sûr ni de blâmer ni de défendre le principe de sélection de Zola, photographe de Paris. Il s'agit plutôt de replacer les clichés parisiens de Zola dans leur contexte historique et surtout iconographique et de dégager les contraintes idéologiques aussi bien qu'esthétiques qui président à ces choix. Si Zola photographe passe des heures à photographier les nouveaux quartiers bourgeois de l'Est, ce n'est ni que sa veine populiste s'est tarie, ni qu'il est en panne d'inspiration, mais parce que son pari, comme celui des éditeurs des cartes postales, est un pari moderne, en pleine marche vers une nouvelle ère de prospérité, de bien-être et de pouvoir. Et pourtant, si Zola participe à l'engouement général pour le recensement topographique aussi, du Paris post-haussmannien, s'il braque souvent son objectif sur les mêmes sites que les éditeurs de cartes postales, il n'en demeure pas moins que sa vision se démarque de la leur de façon révélatrice. Prenons à titre d'exemple la façon dont Zola traite un topos de l'iconographie parisienne de la fin de siècle, un carrefour typiquement post-haussmannien sous la pluie. Alors au départ, un modèle pictorial, le chef-d'œuvre de Caillebotte, Paris, un jour de pluie, qui date de 76-77. Du détail de la boucle d'oreille du personnage féminin de premier plan jusqu'aux lettres d'or des devantures à peine visibles à l'arrière-plan, tout y est luminosité, apesanteur. Et pourtant, ce flottement presque féerique s'accompagne d'un sentiment angoissant d'atomisation et d'incommunicabilité. Chaque figure, chaque sexe, évoluant comme dans une sphère qui l'isole de son autre, de son ou de sa partenaire. La profondeur psychologique de Caillebotte fait autant défaut à la carte postale qu'à la photo de Zola. Restons là. Mais là où sur la carte postale, Voilà. Là où sur la carte postale, on retrouve cette même sensation de luminosité que sur la toile de Caillebotte, comme si la pluie avait pour propriété magique d'alléger les façades oppressantes de la nouvelle architecture monumentale urbaine, chez Zola, peut-être à cause du noir et blanc, l'image est empreinte de tristesse, de lourdeur. Au premier plan, au lieu d'un couple de bourgeois élégants et triomphateurs, une femme du peuple qui fait ses courses en luttant contre les éléments inclément. Tout se passe donc comme si même lorsqu'il photographie les nouveaux quartiers de Paris, Zola restait malgré tout. Ce sont les classes laborieuses et non les classes privilégiées qu'il met le plus souvent en scène. À la différence des photographes anonymes des séries LL, ND ou CM, qui s'attachent à donner du Paris 1900 une image idéalisée, polissée, euphorisante, Zola s'attache, tout du moins sur les clichés rendus publics par ses héritiers, bien sûr, comme nous savons, on n'a pas accès à tous les clichés, à capter un Paris travailleur, à montrer l'envers du décor de la société du spectacle ou de spectacle. Lorsqu'il représente le parc Monceau, par exemple, il ne se contente pas d'en faire admirer les beautés. Il montre aussi, comme nous avons pu le voir à l'exposition, le travail de ceux qui en maintiennent la propreté. Alors que sur quelques cartes postales, on aperçoit sur les bords la silhouette floue d'un balayeur, chez Zola, le curieux balai mécanique des balayeurs se trouve au centre même de l'image. De même, alors que nombreuses cartes postales s'attachent aux façades tout en verre et en acier des nouvelles gares, Zola, comme nous avons déjà pu le voir, vous allez revoir beaucoup d'images d'ailleurs, Zola photographie le travail des manutentionnaires côté cour. Enfin, lorsqu'il photographie le pavé luisant sous la pluie, le crottin de cheval constitue un punctum naturaliste à souhait et qu'on chercherait en vain sur les cartes vues, dont une des caractéristiques est précisément de gommer soigneusement tout détail disgracieux qui accrocherait le regard. Mais c'est à l'occasion de l'exposition de 1900 que la complicité des photographes amateurs et professionnels se révèle la plus étroite, car l'expo déclenche chez les uns et chez les autres une extraordinaire activité photographique. Zola, nous dit-on, en prendra des centaines de clichés. Et par ailleurs, on recense jusqu'à 973 cartes vues de l'expo. Comme l'écrit un contemporain dans une revue sur la carte postale, le triomphe de la carte postale, c'est encore l'exposition de 1900. On l'a reproduite de mille façons, enjolivée, surchargée avec tout le luxe fantaisiste du plus parfait mauvais goût. Site, type, coin inconnu, vue d'ensemble, costume, perspective, architecture, on a épuisé tous les sujets, tous les points de vue de l'immense exhibition internationale. L'exposition de 1900 inaugure en fait une nouvelle ère de la représentation de Paris. Un Paris remis de ce que Marie-Claire Bancard appelle le double traumatisme des travaux de Haussmann et des destructions de la Commune, auquel il convient bien sûr d'ajouter un troisième traumatisme qui est l'affaire elle-même. Ce que l'expo de 1900 expose, c'est en premier lieu Paris. Rappelons pour mémoire que l'un des clous de l'exposition fut une rue de Paris et qu'un vieux Paris, sorte de repoussoir hugolien du Paris nouveau, est planté en plein cœur de l'exposition. Pour Zola, comme pour les producteurs de cartes postales, l'exposition de 1900 est, comme nous le savons, une formidable occasion de mettre les nouvelles techniques de reproduction au service du triomphe de Paris, creusé d'une identité nationale en pleine mutation, capitale d'une nation en pleine expansion. Ce qu'avoue avec une naïveté touchante le contemporain cité plus haut, lorsqu'il parle de certaines cartes qui étaient serties de verroterie. Il dit « Malgré le côté puéril de ces illustrations destinées à éblouir les âmes simples, ces procédés ont quelque chose de touchant. C'est la France qu'ils célèbrent, qu'ils font connaître et aimer à leur manière. » J'aime pour ma part ces carrés de papier multicolore et peinturlurés où rayonne naïvement la gloire enfantine de la patrie. Or, au même moment où l'on salue l'explosion de la cartophilie patriotique, ont fait état de la démultiplication des photos d'amateurs de l'exposition, car on s'en doute, Zola n'était pas le seul. Et voici une citation aussi d'un contemporain. On a calculé que sur 100 personnes qui passent par les guichets de l'exposition, 17 au moins, en moyenne, sont munies d'une chambre photographique portative. Les jours de 300 000 entrées, il y a donc environ 51 000 objectifs en activité dans l'enceinte de la grande foire. Zola fait donc partie de cette foule de photographes. Et c'est une photo qu'on a déjà vue. Quoique, par la qualité de ses photos de nuit, il fasse partie d'une élite qui se distingue de cette horde photographique. Ainsi, l'auteur de cette même notice ajoute « Mais à l'intérieur de cette masse de photographes, rares sont ceux qui prennent des photos la nuit et surtout qui la réussissent. » Se pose alors, et je vais vers ma conclusion, une question qui n'a en rien perdu de son actualité. Celle du rapport entre photographes amateurs et éditeurs de cartes postales. Car si sur les plans technologiques, esthétiques, voire politiques, leurs activités se recoupent largement, peut-on pour autant les confondre, les amalgamer ? Émile Strauss, une des figures importantes des débuts de l'institutionnalisation de la carte postale en France, décrète « En tant que souvenir, la carte postale illustrée a complètement tué la photographie ». Or, comme nous le savons, il n'en est rien. Les deux continuent depuis presque un siècle de coexister pacifiquement. Le touriste bardé d'appareils de photos est aussi un consommateur avide de cartes postales. En fait, l'opposition entre la carte postale et la photo d'amateur est loin d'être rigide. Dès le départ, il existe en parallèle à l'industrie de la carte postale une autre industrie qui procure aux simples particuliers les moyens de transformer leurs photos en cartes postales. Ainsi, dans un livre intitulé « La carte postale photographique et les procédés d'amateurs », un certain A. Berthier détaille les diverses techniques permettant aux photographes de produire ses propres cartes postales, procédés qui présentent des avantages à la fois sur les plans affectifs et économiques. Il dit « Vous avez fait un groupe de vos amis à la montagne ou ailleurs. Admettons qu'il ait été très réussi. » On vous complimente comme vous le méritez et l'on vous fait comprendre que l'on serait enchanté de posséder un exemplaire de votre œuvre. C'est ici qu'intervient la carte postale. Au lieu de tirer les épreuves sur papier ordinaire, qui nécessite une série d'opérations compliquées, vous employez simplement les cartes, que vous sensibilisez vous-même au sel de fer, d'argent, d'où économie de temps et économie d'argent. Pour Zola, mais vous l'avez sans doute déjà deviné, le pas a déjà été franchi. Ainsi, lors de l'exposition de ses photos au musée Ceuta, il y a quelques années, on pouvait acheter sur place, en plus d'un catalogue et d'une affiche de l'exposition, toute une série de cartes postales éditées à partir des photos exposées. Et en voilà une. C'est donc le troisième sens de mon titre, Zola et la carte postale. Zola, auteur, posthume bien sûr, mais auteur néanmoins de cartes postales. Au XXe siècle, pourrait-on dire, en paraphrasant une célèbre boutade du XIXe, toute image est faite pour aboutir à une belle carte postale. Merci.
Merci à Naomi Shore. Y a-t-il des questions sur cette intéressante communication sur la carte postale ? Monsieur.
Naturellement, il faut relever tout de suite que l'exposé est très nourri, que nous venons d'entendre, et je ne voudrais pas encore alourdir le débat, mais je pense que nous pouvons le reprendre ainsi des remarques qui ont été très claires.
Il y a votre cœur qui est tout. Non, mais on est quand même pas très bien. Il y a une question très longue.
Relativiser le rapport des différentes situations dans la fiche. Et peut-être l'aboutissement le plus moderne. Ne revenons pas, bien sûr, sur l'historicité de la carte postale. Vous avez fait un condensé, un constructeur qui même pour les collectionneurs adultiques, permettez-moi de vous dire, est très bien présenté. Parlons pas de l'objet. Mais arrivons à l'époque de Zola. Et nous sommes en 1898. C'est précisément à ce moment-là qu'apparaissent les premières cartes postales, non pas celles dont vous avez parlé, qui sont les cartes postales émises par la poste à partir de 1873. Et c'est l'âge d'or de la carte postale. Ce sont les premières qui sortent et elles ne sont pas très éloignées. Or, je crois que ce qui est très important de souligner, c'est l'affaire président, qui va lancer le thématique de la carte postale et non pas le pictural. Et vous avez fait, évidemment, quelques reproductions de Zola. Mais étudier la répercussion de l'affaire sur le plan historique à travers les éditions de carte postale, c'est, je crois, une étude très intéressante. Vous y avez fait allusion. Mais quand on sait le nombre de séries qui ont été dispersées à travers l'Europe, et c'est l'Allemagne, vous l'avez cité, mais aussi l'Italie, qui ont répandu, je le répète, sur l'affaire Dreyfus, beaucoup plus de cartes de l'édition française. Et il est intéressant de souligner que cela est partout présent. Si vous reprenez les éditions allemandes, il y a toujours 4 ou 5 cartes dans toutes les séries où l'on voit Zola seul, elles sont très rares, mais toujours la quadripartie, si je puis dire, Picard, Zola, Laborie, et toujours au centre. Alors que les Italiennes, elles, prennent le thème extraordinaire. Il faut rappeler, c'est tout ce lien, Justicia et Veritas. Et toujours cela est là, comme si l'affaire Dreyfus était bien le repas avec Zola.
Très bien.
Alors, je vous permets, je vais terminer, justement, le sujet que là, tout simplement, quand même, quel est le rapport direct de Zola avec la carte postale. Car il a connu la carte postale. A-t-on des indications sur sa propre réaction à l'égard de la carte postale? C'est presque lui qui va protester de aussi sa création à travers, non pas ses œuvres, mais sa participation à Jacques. Je ne pense pas qu'il ait été positionnel. Il a évidemment été pris par la notion de photographie, mais quel éclairage avait-il sur ces centaines et ces centaines de cartes postales qui circulaient sur lui-même et sur sa participation avec Jacques.
Merci.
C'est une question que je me pose, en effet, c'est-à-dire, quel était le... Ça serait encore un autre sens à donner à cet accouplement entre Zola et la carte postale. Zola, est-ce qu'il avait connaissance des cartes postales à l'époque de l'affaire Dreyfus? Est-ce qu'il collectionnait des cartes postales? Est-ce qu'il écrivait des cartes postales à ses amis? Pour ça, c'est une question que je pose aux éditeurs de la correspondance. Est-ce qu'il y a des cartes postales? Non, aucune.
Il a reçu quelques cartes postales. Il a reçu. Bon, je ne sais pas s'il les collectionnait, ça, les gens. Mais bon, nous avons des reproductions de cartes postales adressées à Zola.
Évidemment, oui. C'était vraiment les tout débuts de la carte postale.
C'est pas. Mais nous avons des documents qui prouvent que Zola, indirectement, a reçu. Vous savez ce qui s'est passé, et surtout dans les archives de Laborie. Car à côté de Zola, Laborie a été celui qui a été le plus reproduit, si je puis dire, sur les cartes postales. Et dans la série italienne, c'est une carte très rare, c'est précisément celle d'un appel à Laborie, le grand illustrisico, le grand avocat. Et certainement que Laborie a concédé vraiment la communication qui existait avec Zola, ne pouvait pas ne pas le tenir au courant de tout ce qu'il recevait. J'ai d'ailleurs une carte ici de Suisse, écrite en 1901, où l'on dit précisément, mais je vais vous envoyer les cartes postales sur l'affaire de son terrain.
Madame.
Alors, si l'on ne sait pas si Zola a reçu lui-même des cartes postales, en tout cas, ses enfants en ont reçu, en faisaient la collection. Il y a deux albums, je connais deux albums que mon grand-père m'avait plusieurs fois montré, de cartes postales adressées à Jacques, qui étaient collées sur un album, de même qu'il faisait faire à ses enfants, enfin du moins à Jacques, collection de pierres. collection également, de, enfin, il avait un herbier et un album de cartes postales adressé aux enfants. Voilà.
Merci. D'autres questions pour la salle ? Adressées à l'orateur ?
Je crois que tout le monde a faim.
Je crois que tout le monde a faim, effectivement. Jean-Pierre, vous dites le mot de pratique pour le rendez-vous, l'heure de rendez-vous après le déjeuner.
Alors, le rendez-vous après le déjeuner est à 10h. Je dois vraiment avoir comme ça. L'heure de rendez-vous est à 14h. Et je vous signale 14h, 14h, non.